Combattante, combative, histoire, politique, intime, universelle. Des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire. Une série radiophonique avec la classe PEM du collège Victor Hugo.
On ne naît pas femme, on le devient.
Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est qu'être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle.
Bienvenue sur Radio PEM. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la vie de Simone de Beauvoir et son parcours dans la lutte du féminisme. Née dans la deuxième moitié du 19e siècle, le mouvement du féminisme est un mouvement qui prône l'égalité des sexes. Du 19e siècle au début du 20e, il se focalise surtout sur le droit de vote des femmes, qui est accepté en 1944 en France, mais aussi sur l'amélioration des conditions de travail des femmes qui sont payées bien moins que les hommes, avec des métiers souvent plus éprouvants que ceux de ces derniers. Ensuite, de 1960 à 1980, le féminisme cherche à changer la place de la femme dans la société. La femme était considérée comme une éternelle mineure sous la tutelle des hommes. Mais ce mouvement va aussi chercher à développer des moyens de contraception. Par ailleurs, les mouvements féministes se mobilisent aussi pour le droit à l'avortement, qui passe le 17 janvier 1975 sous le nom de loi Veil en France. Puis, de 1980 aux années 2000, les revendications féministes vont s'élargir à toutes les minorités comme les personnes racisées, invalides, au foyer, les membres de la communauté LGBT, etc.
Nous nous sommes intéressés à Simone de Beauvoir et son importance dans le mouvement féminisme du XXe siècle. Simone de Beauvoir est née le 9 janvier 1908 à Paris. Elle est convaincue très tôt de ne pas vouloir vivre comme les autres femmes de son entourage. Non, ma vie à moi me conduirait quelque part. Décide-t-elle alors qu'elle fait la vaisselle avec sa mère, comme elle le raconte dans ses mémoires d'une jeune fille rangée. En grandissant, elle prend un chemin peu courant pour des femmes de son époque. Elle décide de se diriger vers la philosophie et le professorat pour pouvoir vivre librement. Après la guerre, elle s'engage dans le communisme. C'est une figure majeure dans la lutte du féminisme. C'est elle qui affirme notamment « On ne naît pas femme, on le devient » dans le deuxième siècle publié en 1940. Elle prône la libération et l'émancipation de la femme dans la société. Elle s'est également engagée pour réclamer le droit à l'avortement. Ainsi, elle rédige et signe le manifeste des 343, une pétition pour le droit à l'avortement en France, signée par 343 Françaises, célèbres ou anonymes, qui déclarent avoir avorté illégal. Peu après cela, elle fonde une association pour la dépénalisation de l'avortement appelée « Choisir la cause des femmes » en juillet 1971.
Nous avons interviewé une jeune étudiante qui prend à cœur la lutte du féminisme. Enchantée mademoiselle, en quoi Simone de Beauvoir a été importante pour vous ?
Simone de Beauvoir a été une figure féministe très importante pour moi. Elle m'a permis de devenir actrice de mon destin. Je me souviens d'une phrase qui m'a marquée. Ce que nous faisons détermine et construit notre identité, et que le présent n'est pas un passé impuissant, mais le moment du choix et de l'action. Pour elle, les actes étaient plus forts que les mots. Et c'était le genre de personne à agir, à faire tout son possible pour changer les choses. En lisant ces ouvrages qui se composent d'un message incroyablement positif et féministe, qui donne envie de s'écouter et de s'affirmer, elle m'a donné envie de lire, de me cultiver, de m'enrichir, mais également de choisir ma voie et ma vie.
Que pensez-vous de la vie sentimentale de Beauvoir ?
Pour moi, c'est un exemple de liberté. Elle fait partie d'une des premières femmes ayant eu plusieurs amants, montrant l'évolution de la place de la femme, jadis considérée comme un objet. Pour une fois, ce n'était pas seulement l'homme qui avait la possibilité d'avoir différentes relations en même temps. Elle a également eu des relations avec des femmes, œuvrant à l'acceptation des minorités LGBT. Elle a montré la voie pour que les femmes se libèrent des chaînes de l'inégalité entre hommes et femmes.
Simone de Beauvoir a été importante dans le mouvement du féminisme par son engagement dans les associations et dans la signature du manifeste des 343. Elle a inspiré de nombreuses personnes par son état d'esprit et sa bataille contre les inégalités. Merci à tous pour votre attention, c'était Radio PEM, à bientôt pour de nouveaux podcasts.
C'était un épisode réalisé par Dina, Jude et Eleonore.
Bienvenue sur GTFM. Aujourd'hui, je vais interviewer des survivants des camps de concentration. Je voulais vous présenter.
Bonjour, je suis Ginette Kolinka. Je suis née le 4 février 1925 à Paris. Je suis une survivante des camps d'Auschwitz-Birkenau et passeuse mémoire de la Shoah. Mon père était artisan et ma mère s'occupait des 7 enfants.
Bonjour, je me présente. Je suis Charlotte Delbeau, née le 20 août 1913. Je suis l'aînée d'une famille émigrée italienne. J'ai fait partie des jeunes communistes. J'ai rencontré mon mari Georges, avec qui je suis entrée en résistance.
Bonjour, je m'appelle Marceline Loridan-Evans, née le 19 mars 1928 à Épinal.
Comment êtes-vous arrivée dans les camps ? Vous pouvez débuter, Madame Kolinka.
En 1944, la Gestapo et la milice viennent arrêter mon père, mon petit frère et mon neveu suite à une dénonciation. Je proteste, ils m'embarquent aussi. Nous sommes internés au camp de Drancy, dans le nord-est de Paris, puis je suis déportée par le convoi 71 en wagon à bestiaux, jusqu'au camp d'Auschwitz-Birkenau. Un trajet particulièrement pénible, car il n'y avait pas de fenêtres, pas de nourriture et juste un seau pour faire nos besoins.
Et vous, Madame Delbeau ?
J'étais chargée de l'écoute de Radio Londres et Radio Moscou, deux chaînes de radio résistantes, qui encourageaient les Européens à lutter contre l'Allemagne nazie. Nous avons été arrêtés, mon mari et moi, le 2 mars 1942, par les brigades spéciales qui traquaient les communistes. Les hommes du groupe ont été torturés. Nous, les femmes, avons été épargnées mais fichées. Nuit et brouillard. Nom de code donné aux opposants du régime nazi. Mon mari a été fusillé le 23 mai au Mont-Valérien. J'ai été incarcérée à la prison de la santé, puis conduite au fort de Romainville avec 230 autres femmes. Nous avons été le seul convoi de déportés politiques françaises envoyés à Auschwitz.
Madame Loridan-Evans.
On m'a arrêtée dans la rue en 1944. J'ai d'abord été déportée à Drancy, puis à Auschwitz.
À quel âge êtes-vous arrivée dans les camps ?
À 20 ans en 1944.
À 30 ans en janvier 1943.
J'avais environ 15 ans.
Pouvez-vous nous raconter votre arrivée dans les camps ? Nous vous laissons vous exprimer, Madame Kolinka.
Mon père et mon frère ont été gazés à l'arrivée. Les avoir conduits à la mort est mon pire remords. Je leur avais conseillé de monter sur les camions censés les ramener plus vite car ils étaient épuisés. Je n'ai appris que plus tard qu'ils avaient été gazés. Quant à moi, j'ai été déshabillée, rasée et tatouée devant tout le monde. Une expérience très humiliante.
Et vous, votre arrivée, Madame Delbeau ?
Notre groupe a chanté la Marseillaise en étant dans les camps. Puis nous avons été tatoués. Mon numéro était 31661. Et on nomme notre convoi celui des 31000. En arrivant, nous avons découvert à côté des baraques des cadavres squelettiques au visage tordu. Cette image reste encore profondément gravée en moi.
Racontez-nous vous aussi, Madame Loridan-Event.
Pour moi, le pire souvenir est la séparation avec mon père. Quand nous nous sommes quittés à Auschwitz, il m'a demandé de rester en vie. Ce furent ses derniers mots.
Comment avez-vous vécu cet enfermement ? Exprimez-vous, Madame Kolinka.
Au camp, on se faisait insulter, disputer et frapper. Mais il fallait baisser la tête et ne rien dire. Nous étions vêtus de guenilles. Réveil à 3h30. Tout le monde devait être là pour d'interminables appels. Mon travail consistait à casser les pierres avec un maillet, puis les mettre dans un wagon et les pousser. Même exténué, il fallait continuer. La nourriture était infecte. Nous mangeons un peu de pain, des pelures de pommes de terre, une rondelle de saucisson de temps en temps. Régulièrement, nous étions inspectés et désinfectés. Celles qui étaient trop maigres ou couvertes de boutons étaient gazées.
Cela a dû être très compliqué. Poursuivez, Madame Delbeau.
La terrible épidémie du typhus a foudroyé beaucoup de mes camarades au printemps 43. Malgré cela, nous étions très solidaires. Et nous avons réussi à présenter le malade imaginaire de Molière. C'est ce lien et cette entraide qui ont permis à 49 femmes du groupe de rentrer chez elles.
Comment êtes-vous sortie des camps? Nous vous laissons prendre la parole, Madame Kolinka.
J'ai été déportée à Bergen-Belsen, puis à Theresienstadt, où les Alliés sont venus me libérer. J'ai ensuite été rapatriée à Lyon, j'avais 20 ans.
Continuez, Madame Delvaux.
J'ai quitté Ravensburg en 1945 grâce aux forces alliées. J'étais dans un état de santé très fragile, en raison des conditions de vie extrêmes au camp. Je suis sortie à 32 ans.
Avez-vous pu reprendre un cours de vie normal, Madame Kolinka?
Quand je suis revenue, j'étais froide et insensible. J'ai annoncé la mort de mon père et mon frère à ma mère, comme si l'horreur était devenue banale. Quand je suis rentrée, je pesais 20 kilos, et la concierge m'a même prise pour mon frère. Heureusement, mes sœurs et ma mère étaient là pour moi. Plus tard, j'ai rencontré un homme, je me suis mariée, j'ai eu un fils.
À votre tour, Madame Loridan-Evans.
Ça m'a beaucoup marquée, ça me fait encore mal aujourd'hui. J'ai perdu des personnes chères à mes yeux, comme mon père. J'ai énormément souffert, j'ai assisté à des scènes inhumaines. Malgré tout, après ma libération, j'ai repris petit à petit ma vie en travaillant dans le cinéma et en témoignant auprès des jeunes générations.
Et vous, Madame Delbo?
À la suite de notre libération, cette expérience indicible nous a tous laissé de profondes cicatrices physiques et psychologiques. Et reprendre une vie normale a été un combat quotidien. Il fallait se réadapter à une société qui ignorait l'enfer des camps.
Longtemps, j'ai refusé de prendre la parole sur cette expérience traumatisante, mais aujourd'hui, je continue à témoigner des horreurs que des millions de personnes ont vécues pour perpétuer cette mémoire.
Effectivement, nous espérons que notre parole empêchera ces épisodes traumatisants de s'effacer des mémoires.
Oui, il est important que les plus jeunes découvrent cette partie sombre de leur histoire.
Nous vous remercions sincèrement d'être venus répondre à ces questions qui ont dû émouvoir nos auditeurs. Nous espérons que votre vécu continuera d'interpeller les jeunes et générations futures.
C'était un podcast réalisé par Aya, Nesrine, Lina et Germaine. Vous pourrez retrouver cette série radiophonique sur le site castopod.jetfm.fr.
C'était une production issue du laboratoire sonore de Jet. Retrouvez tous les podcasts de nos projets au www.sonolab.fr.